Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique.
Bienvenue sur Sud Radio, il est 7h42, c'est le petit déjeuner politique de Lydia Guirousse qui est porte-parole des Républicains.
Bonjour Lydia Guirousse.
Bonjour.
L'audition d'Alexandre Benalla va reprendre aujourd'hui devant le Sénat. Affaire d'État pour vous ou pas ?
Oui, affaire d'État avec beaucoup de dissimulations qui sont inquiétantes. À chaque fois, on découvre un nouvel épisode avec des choses toujours plus inquiétantes, plus surprenantes et une vraie défaillance au sommet de l'État. Heureusement que la commission d'enquête du Sénat, le Sénat qui a une majorité de droite, a pu faire son travail avec indépendance et avec
rigueur. Parce que sinon, vous pensez que ça aurait été bloqué ?
Oh bah écoutez, la commission d'enquête à l'Assemblée nationale était quand même une vaste comédie. Elle a été entravée et je voudrais saluer le travail de Guillaume Larrivé qui a tenté de résister et surtout le travail de Philippe Bas au Sénat qui fait un travail formidable pour la démocratie et puis pour que la vérité enfin puisse être découverte.
Merci les Républicains, quoi, alors, c'est ce que vous dites.
Merci au Sénat, merci au travail de nos élus, et puis merci aussi, d'une certaine façon, aux médias qui ont révélé, et à l'importance des journalistes qui ont révélé cette affaire.
Ouais, mais
c'est quand même invraisemblable, hein. Christophe Castaner avait parlé d'un simple porteur de bagages. Le porteur de bagages, on apprend qu'il a un téléphone crypté, qu'il a des passeports diplomatiques, qu'il a ses entrées partout. C'est très surprenant pour un simple chargé de mission qu'il ait autant de pouvoir et autant de protection et si longtemps, y compris après la révélation de l'affaire cet été, il continuait à échanger avec le président de la République.
Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de plus, selon vous, alors, Lydia Guirousse ?
Je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer. La justice va faire son travail, la commission d'enquête du Sénat va faire son travail. Et nous allons découvrir les choses, mais en tout cas c'est un signal d'amateurisme
et aussi les choses de défiance au plus haut niveau
vis-à-vis de
l'État, à l'Élysée, c'est ça ? Vous visez Emmanuel Macron ?
Je ne vise pas Emmanuel Macron. En tout cas, Emmanuel Macron a beaucoup protégé Alexandre Benalla et on peut s'interroger sur pourquoi autant de protection, pourquoi autant de dissimulation.
Oui, alors pour l'instant, ça n'affecte pas Emmanuel Macron parce qu'il remonte dans les sondages, plus 4 points. Il a gagné, il est passé à 27%.
Vous savez, les sondages, certains auraient été président de la République si les sondages avaient dit la vérité. Moi, je suis toujours très étonnée parce que...
Oui, mais
faut
c'est
quand même
une photo à un moment donné, quoi.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une saturation médiatique. Hein. Depuis, pendant plus de 3 jours, on a eu non-stop Emmanuel Macron sur les chaînes d'infos. On continue pour le grand débat. Il fait son one-man show, avec jamais les Français en direct, mais les élus triés sur le volet, des maires. Donc, effectivement, cette saturation médiatique peut peut-être avoir un impact à un moment T. Mais je pense défiance et la méfiance vis-à-vis du président de la République est vraiment installée. Je pense que les Français n'ont plus vraiment envie de l'entendre et je pense qu'ils n'ont plus confiance parce qu'il y a une succession de trahisons qui fait qu'aujourd'hui, il peut multiplier les one-man show. D'ailleurs, on peut se demander, est-ce que ce grand débat et cette saturation médiatique va-t-elle être comptée sur le temps de parole de La République En Marche sur la campagne électorale qui arrive, c'est-à-dire les européennes? Est-ce que ces meetings...
On n'est pas encore dans la campagne en tant que telle.
Qui paye ces meetings? Est-ce que ça va être inclus dans les comptes de campagne de La
meeting,
République
pas,
En Marche?
Pas de grand débat, mais de meetings.
Écoutez,
pour vous.
Déjà, ce n'est pas un débat, hein, c'est une consultation. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes les doléances qui vont en sortir? Et j'ai l'impression que les réponses sont déjà écrites, puisque même Benjamin Griveaux a dit que de toute façon, il ne changerait pas de cap et il ne changerait pas de politique. Donc, est-ce que c'est une façon encore de gagner du temps ? C'est un simulacre de débat. Je pense que c'est une façon de gagner du temps et de faire taire la colère en baladant un petit peu les Français, malheureusement.
Oui, mais Lydia Guirousse, Laurent Wauquiez devrait s'en inspirer un petit peu en se montrant un peu plus présent pour remonter dans les sondages. Les Républicains, vous plafonnez à 10% dans les intentions de vote.
Alors encore une fois, les sondages...
Oui, mais c'est une photo sur le moment présent.
Alors sur le moment, et comme vous l'avez dit, la campagne des européennes n'est pas encore lancée. Nous allons lancer notre campagne très prochainement. Le 29, il y a la commission d'investiture qui va désigner les 10 premiers de la liste. Laurent Wauquiez est un élu de terrain. Il connaît la France et il la sillonne. Il était à Toulouse et du côté de la Haute-Garonne cette semaine. Chaque semaine, il fait 2 jours de déplacement sur le terrain.
beaucoup. Hein.
Écoutez, il a fait une grande interview dans la Dépêche. Je vois que vous l'avez sur la table. Ouais. Il n'y a pas que Paris et les médias nationaux. Il va au contact des Français, il va au contact des chefs d'entreprise, il va aussi au contact des territoires. Et ouais. Il n'y a pas que Paris, il y a les territoires et c'est important de sillonner la France et de la connaître. Ouais. Ça évite ce mépris et cette arrogance de La République En Marche.
Mais vous avez sans doute raison, sauf que pour l'instant, ça ne paye pas dans les sondages. Quoi.
Alors, je ne suis pas certaine. François... Attendez la campagne, nous allons remonter, nous avons une histoire à écrire.
Oui, on va voir. Alors François-Xavier Bellamy, justement, est pressenti. Hein. Maintenant, c'est quasiment certain pour être votre tête de liste aux européennes. Hein.
La commission d'investiture se réunit le 29. Il y aura un débat et c'est à l'issue de la commission d'investiture du 29 janvier que nous connaîtrons la tête de liste pour les Républicains.
Bon, mais c'est bien parti. C'est votre favori.
J'ai pas d'informations à ce sujet. Moi, j'attends j'attends la désignation par la commission nationale d'investiture des Républicains.
Est-ce que la polémique là, de ce week-end peut lui coûter son poste? Alors, la polémique de ce week-end, c'est parce qu'il y a eu une marche des anti-IVG. François-Xavier Bellamy n'y était pas, mais il y a participé par le passé à de telles marches. Et il assume totalement, d'ailleurs, sa position anti-IVG. C'est compatible avec vos valeurs?
Écoutez, François, bon, il n'y a aucun débat sur l'IVG à droite. Hein. Ça ne fait pas partie de notre programme de remettre en question l'IVG. C'est un droit acquis et ça restera un droit acquis. Et je voudrais quand même rappeler que Simone Veil était une femme de droite et que le Premier ministre à l'époque était Jacques Chirac. Personne ne remettra l'IVG en question. François-Xavier Bellamy a exprimé une conviction personnelle. Il y a eu quand même... beaucoup d'excès de zèle de la part du JDD, lui-même l'a démontré. Ce qu'il dit, c'est qu'on peut quand même, dans le pays de la liberté d'expression, c'est un philosophe aussi, dire que il y a 200 000 IVG par an en France, que ça touche beaucoup les plus jeunes et que c'est pas franchement quelque chose dont on peut se réjouir et qu'il faudrait revoir la politique de santé publique envers les jeunes pour essayer de réduire ce chiffre. Puisque, comme le disait Simone Veil, c'est une solution de dernier recours. C'est toujours un drame et ça restera toujours un drame pour une femme d'avoir recours à l'IVG. Donc, est-ce qu'on peut quand même s'exprimer en France et dire qu'il faudrait réfléchir à peut-être davantage promouvoir la contraception pour éviter que les femmes, et notamment les plus jeunes, aient recours à l'IVG, parce que c'est toujours un drame et ça marque toujours les femmes.
En tout cas, pas question de remettre en cause l'avortement.
Personne ne remettra en cause l'avortement à droite. C'est acquis, ça restera acquis. Vous pouvez compter sur moi pour monter au créneau.
Vous
s'il y avait un début de doute là-dessus.
Oui, et vous allez quand même le pousser un petit peu dans ses retranchements, François-Xavier Bellamy, pour connaître véritablement sa position
au moment de
mener une liste des européennes. Bah oui, mais c'est important.
Il a le droit d'avoir des convictions personnelles. Une chose est certaine, c'est que ça ne fait pas partie du projet des Républicains. Et à aucun moment, il a dit que dans le projet des Républicains, ou qui que ce soit a dit que dans le projet des Républicains, nous remettrions en cause l'IVG. C'est acquis, ça restera acquis, et nous le défendrons. Et François-Xavier Bellamy peut exprimer des convictions personnelles qui ne sont pas le projet. Et lui-même a été très clair là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas non plus le caricaturer.
Oui. Jean-Pierre Raffarin menace de quitter les Républicains et de soutenir La République En Marche pour les européennes. Si le projet LR n'est pas assez clair et ne lui convient pas sur l'Europe.
Écoutez, le projet LR sur l'Europe a été voté à Menton et il a clairement été indiqué que nous étions pour l'Europe. Nous sommes pro-Europe, mais nous ne voulons pas d'une Europe qui ne fonctionne plus. Nous voulons réformer l'Europe, nous voulons améliorer l'Europe pour une Europe qui protège. Jean-Pierre Raffarin ne s'est pas exprimé depuis sur le sujet.
Moi, Vous voudriez qu'il s'exprime justement ?
Je vois que Jean-Pierre Raffarin n'a pas apporté de critique sur le fond, puisque le projet qui a été voté à Menton n'a pas été critiqué. D'ailleurs, vous avez Jean Leonetti qui est un humaniste et qui soutient et qui a fait voter ce projet, qu'il a quand même porté les 7 piliers de notre projet. Donc, est-ce que Jean-Pierre Raffarin est plutôt dans la posture ou est-ce qu'il est dans le fond? Bon, moi, j'opterais plutôt pour la posture et le rassemblement.
Pourquoi cette posture, selon vous, de Jean-Pierre Raffarin? Qu'est-ce qu'il cherche à faire?
Écoutez, s'il ne confond pas le rassemblement et la soumission à Emmanuel Macron. Il y a un moment, nous, on est une équipe. Laurent Wauquiez a la volonté de mettre en place une nouvelle droite avec une équipe aussi qui est rajeunie, qui est une droite de conviction, qui est une droite qui a une colonne vertébrale et on ne va pas sans cesse se laisser entraver par ceux qui, par le passé, ont déçu ou ont louvoyé.
Ouais, mais c'est dur de construire cette nouvelle droite, en tout cas la droite des Républicains.
Écoutez,
hein.
Nous sommes déterminés,
Larcher,
on
Pécresse,
sait où on habite.
Muselier...
Larcher, écoutez, il y a eu les vœux du parti et Gérard Larcher était présent, il est aux côtés de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez a gagné avec 74%. Il y a une équipe autour de lui, on a un équipage, on a un capitaine, on a un cap et on va poursuivre. La nouvelle droite, c'est vrai que c'est toujours difficile d'imposer le renouvellement, c'est toujours difficile quand on a des convictions. Ça dérange, hein, parce qu'on préfère toujours ceux qui louvoient, ceux qui sont pas tout à fait clairs. Nous, on a envie d'être clairs, on a envie d'être de droite, une droite qui s'assume, et on va pas se laisser déconcentrer par ceux qui ont déçu
est-ce
par le passé.
Lydia Guiroux, est-ce que vous allez participer au grand débat national, vous, d'une manière ou d'une autre ?
Alors, les Républicains vont faire leur contribution, on va solliciter nos militants, et on va faire une contribution sur les sujets de l'immigration, sur la dépense
publique. Alors, l'immigration, la question doit être posée clairement dans le grand débat national. Quelle question doit être posée, selon vous, sur l'immigration ?
Nous estimons que l'immigration... aujourd'hui, la France est arrivée à saturation. Nous n'avons plus les moyens d'accueillir de nouvelles personnes. Il y a les chiffres qui sont tombés. Encore un record de délivrance de titres de séjour, 255 000. Précédemment, c'était 262 000. C'est énorme. Je pense qu'aujourd'hui, la France n'a plus ni les moyens... n'a pas les moyens économiques. Enfin, il y a une crise du logement.
Qu'est-ce que vous voulez ? Des quotas, en fait, c'est ça ?
Il faut que cela puisse faire l'objet d'un débat au Parlement et qu'il y ait un vote avec un plafonnement de nombre de personnes que nous pouvons accueillir et accueillir dignement avec un emploi.
Vous êtes favorable à ça ?
Oui, parce que aujourd'hui, on accueille sans avoir les moyens d'accueillir et ça crée une crise de l'intégration et ça favorise le communautarisme et si on tire le fil, et ça va jusqu'à l'islamisme. Je pense qu'aujourd'hui, on doit accueillir quand on peut accueillir. Et la France doit pouvoir choisir, les Français doivent pouvoir choisir qui ils souhaitent accueillir et ça passera par un vote et un débat au Parlement,
encore,
à mon sens.
Encore un mot, Lydia Guiroux, vous connaissez bien les quartiers difficiles, justement. Sur cette immigration, pourquoi, selon vous, le grand débat et les gilets jaunes n'ont pas pris dans les quartiers, dans les banlieues, ce mouvement ?
Parce que dans de trop nombreux quartiers, et vous savez que ça fait des années que j'alerte là-dessus, et on m'a caricaturé pour ça, il y a une forme de scission. Il y a une forme de coupure et de rejet de la France. Et donc, ils ne se sentent plus concernés par ce qui concerne la France, par la situation de la France, par l'avenir de la France. Et donc, pour eux, ce n'est pas leur mouvement. Donc voilà, c'est le communautarisme qui mène vraiment à une forme de scission et de rejet de tout ce qui représente la France et de tout... Oui. Tous les enjeux sociaux, sociétaux qu'il y a en France. Et c'est pour ça que nous avons besoin aussi d'une droite de conviction, parce que la France, elle a besoin d'ordre, elle a besoin de sécurité et elle a besoin qu'on ait une identité très forte pour lutter contre ce communautarisme qui est triomphant et qui est conquérant.
À propos de communautarisme et puis de rejet, vous avez peut-être lu l'interview de Philippe Val hier dans le JDD, qui se sent traqué partout, plus en sécurité, menacé, dit-il. Vous le soutenez, Philippe Val ?
Philippe Val est un ami, je le soutiens. On partage les mêmes combats sur la laïcité, sur la lutte contre l'islam radical. Et malheureusement,
même s'il est de gauche.
Et malheureusement, Philippe Val est de cette gauche intelligente, cette gauche véritablement républicaine, celle d'Elisabeth Badinter ou de Manuel Valls. On partage les mêmes combats et malheureusement, on partage aussi les mêmes menaces et les mêmes inquiétudes.
Le mot de la fin, Lydia Guiroux, porte-parole des Républicains avec Cécile de Ménibus.
Oui, justement, en parlant de combat, est-ce que l'égalité femmes-hommes doit s'ajuster en fonction de la confession, de l'origine et surtout du lieu d'habitation.
Jamais. Et c'est l'objet du livre que j'ai publié qui s'appelle Le suicide féministe, où je démontre à quel point il y a eu des lâchetés, des renoncements, et où certaines féministes, souvent de gauche, qui sont sans arrêt dans les médias, vous disent qu'il faut le faire en fonction des territoires, comme l'avait dit la ministre des Droits des Femmes, en fonction des confessions. Elles sont musulmanes, donc le voile, finalement, on peut accepter, alors que le voile n'est qu'un objet de soumission des femmes. C'est un drapeau de l'islamisme conquérant. Et que toutes les femmes, à mon sens, ont droit à la liberté. Toutes les femmes, quelle que soit leur origine sociale, ethnique, ou quelle que soit leur confession religieuse, et sur tous les territoires. Et c'est pour ça qu'on doit être dans une véritable conquête républicaine et on doit réimposer la laïcité partout.
Merci beaucoup, avec un invité surprise sur vous.
Oui, bonjour Lydia, c'est moi François, le tout dernier des premiers socialistes en partant du bas tout au fond à droite. Oui, chez mon GPS déconne en ce moment. Permets-moi de t'adresser tous mes bons voeux pour cette année. Bon, la bonne nouvelle pour la droite, c'est qu'en 2019, ce sera difficile de faire pire qu'en 2018. D'ailleurs, sur Twitter, tu as comparé les vœux de Macron à un marchand de sable dans un nouvel épisode de Nicolas Épinpronet. Alors, voici ma question, justement, en parlant de Nicolas, ton ancien mentor, s'il devait jouer dans un dessin animé pour les mioches, tu penses qu'il aurait plus sa place dans un remake des aventures de Pinocchio en Libye ou alors dans le Minicum ? Nicolas Sarkozy.
Ah, Nicolas Sarkozy, c'est un peu mon père hein, en politique. C'est lui qui est venu me chercher et qui m'a mis le pied à l'étrier. Et je voudrais profiter pour lui dire toute mon amitié et toute mon affection. On a échangé récemment. Nicolas Sarkozy, il a toujours sa place en politique et on a toujours plaisir.
Plus que jamais, selon vous.
On a toujours plaisir à l'entendre. Et est-ce qu'il doit revenir ? Il a été très clair là-dessus. Il a toujours dit qu'il était en retrait de la vie politique et je pense qu'il faut respecter ses choix et il faut arrêter de forcer la main. Il est heureux dans sa nouvelle vie et il a le droit aussi à ce bonheur-là.
On verra.
Ça peut changer.
Oui. Voilà.
Restez avec nous, bien sûr.
Lydia Guérouse, porte-parole des Républicains, invitée ce matin de Sud Radio.
Et on retrouve Dany Moreau à 8h20 exactement. Et puis, dans quelques instants, c'est l'opinion d'Yves de Cardrel. Quand Macron reçoit 150 grands patrons à Versailles, en pleine crise des Gilets jaunes. Restez avec nous, 7h58.